Le Grand Dialogue.
Sigi Kafomba.
Idowani wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halou Mouni.
Chenni Beri. Sigi Kafomba. Le Grand Dialogue.
Conseil national de transition, l'équipe en place va-t-elle réellement contrôler l'action gouvernementale? Le degré de nomination de ses membres est mis en cause par le M5RFP. Les organisations féminines dénoncent un flou et un manque de transparence autour de la composition du CNT. Où se situe le problème? Comment y faire face? À quoi faut-il s'attendre? Les invités du Grand Dialogue, Madame Dembélé Oulema Tousseau, présidente de la coordination des associations et des organisations féminines CAFO, Mohamed Mamata Touré, président de l'association Anko Mali, Boubacar Bokoum, analyste politique. Je suis Mrana Kilo Maïga, auditeur, téléspectateur, chers invités, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Madame Oulema Tousseau, quel est votre avis sur la mise en place du Conseil national de transition mise en place jeudi dernier?
Merci beaucoup, monsieur Maïga. Donc, je salue, n'est-ce pas, mes co-débatteurs. Je dis bonjour à tous vos spectateurs et spectatrices. Je dis bonjour, n'est-ce pas, au démembrement de la CAFO qui sont dans toutes les régions et à toutes les femmes du Mali. Ceci dit, donc, ce que je pense de la mise en place du CNT, le CNT, il était très attendu et c'est une bonne chose, n'est-ce pas, qu'il soit venu. Et ceci dit, le CNT est, je crois, le troisième organe, n'est-ce pas, qui devrait être mise en place et dans le mandat du CNSP. Et c'est ça qui a été fait. Et vraiment, on a salué son accouchement. Donc, et maintenant, conformément à la charte de transition, n'est-ce pas, qui définit un peu les acteurs au niveau de la transition, qui sont les forces de défense et de sécurité, le M5, je crois qu'on a mis dans le cadre de l'opposition, et puis les partis politiques, les journalistes, la société civile, et puis les religieux, les jeunes et les femmes. Et les femmes, et ce qui est sorti, et n'est-ce pas, dans le décret, c'était 4 femmes. Donc moi, je vais m'apesantir sur ces 4 femmes et dire que il y a 4 femmes. Il peut y avoir plus de 4 femmes parce qu'il y a entre 30 et 31 femmes dans le CNT. Et si c'est 30 femmes, ça, on va dans les 24%. Si c'est 31 femmes, parce qu'on est en train vraiment de titiller sur le nom qui est déjà le premier nom qui s'appelle Haley Cissé. Haley Cissé, d'aucuns disent c'est un homme, d'aucuns disent c'est une femme. Et à ma demande, on est en train de chercher à trancher cette question. Donc, si Haley était un homme.
L'ancien maire de Tombouctou.
Hein?
L'ancien maire de Tombouctou.
Voilà, si c'est un homme, donc c'est 30%, c'est 30 femmes dans le CNSP et ça fait 24,79%.
On est presque à la moitié du quota de 30%.
Ah, c'est pas la moitié qu'on recherche, on recherche les 30%. Les 30%, d'accord, on n'a pas pu l'atteindre, mais nous, on a estimé, compte tenu du fait qu'on a été exclu pratiquement des autres organes. Le premier ministre a été mis en place, on a pensé qu'on pouvait donner ça aux femmes. Il y a également le président de la transition qui est un homme, le vice-président est un homme. Donc, dans cet organe déjà de décision de haut niveau, les femmes sont quasi absentes à ce niveau. Donc, on s'est dit qu'on va faire un rattrapage au niveau du CNT, le Conseil national de transition, ce qui n'a pas été fait. Donc, même les 30% n'ont pas été atteints.
Vous attendez à quoi dans la composition du CNT?
On s'attendait au moins à 30%. De toutes les façons, les commanditaires seraient blanchis par rapport à ce point. Parce que pour les 30%, et ça nous a valu, n'est-ce pas, de la sueur. Ça nous a valu de la salive. Ça nous a valu et un peu de la réflexion. On a sorti vraiment des propositions. Et vous n'êtes pas sans savoir que toutes les organisations de femmes ont décidé de se mettre ensemble et puis de battre les pavés pour aller jusqu'à la primature. À ce niveau, On a remis une déclaration au Premier ministre qui devrait remettre au président de la transition. Et le Premier ministre, à son propre niveau, il s'est engagé. Il s'est engagé que vraiment, ils vont réparer ce tort-là et qu'ils seront plus regardants, n'est-ce pas, par rapport au respect strict de la 052.
D'accord.
Donc, si on quitte cet aspect, n'est-ce pas, du respect de l'application de la 052, il y a le fait qu'on ne sait pas la provenance, n'est-ce pas, des membres qui ont été, des personnalités qui ont été retenues dans le CNT. Donc, en fait, il y a certains couacs, il y a un flou. On ne sait pas beaucoup et puis on ne connaît pas non plus les critères qui ont prévalu, n'est-ce pas, au choix, n'est-ce pas, de ces membres qui sont dans le CNT. Même si on salue vraiment leur nomination, on les félicite quand même d'avoir eu bénéficié de la confiance, n'est-ce pas, du CNSP.
Un flou dans la nomination des membres du Conseil national de transition. Boubacar Bokoum, quelle est votre analyse sur la composition?
Non, d'abord, il faut retenir qu'au niveau même de la clé de répartition, nous, en son temps, on avait dit que c'était un problème sérieux parce que si vous cherchez la légitimisation d'un pouvoir de ce genre à travers une clé de répartition qui représente toutes les tendances, ça veut dire que vous ne recherchez pas, en fait, l'efficacité. Le Conseil national de transition, en principe, aurait dû être un organe purement technique à cause de la durée de la transition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas attendre des membres du CNT de faire une réflexion stratégique de haut niveau, et de sortir des lois et de contrôler de façon convenable un gouvernement parce qu'ils n'en ont ni les compétences ni les capacités dans la majorité. Donc on ne peut pas prendre des gens venant de différents bords pour dire qu'on vient sanctionner des actes juridiques et surtout que le Mali est dans une situation quand même exceptionnelle qui fait que c'est un pays qui est en voie de disparition. C'est ça la triste réalité. Le Mali est carrément dépiécé. Donc pour une transition, nous avons espéré que cette transition allait être une transition de courte durée et très technique. Ça veut dire que les axes essentiels sur lesquels il fallait plancher devraient être strictement définis par le CNSP et ne pas s'installer dans la gouvernance. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons quoi ? Que le CNSP, à travers le CNT, à travers le gouvernement, et tout ce qui est en train de suivre, ils sont en train de s'installer dans la gouvernance. C'est pourquoi vous avez aujourd'hui des revendications sociales, une demande sociale forte qui s'adresse à eux. Alors que ce ne sont pas les demandes sociales, ce n'est pas leur rôle. Ça, c'est la chaise du politique. Cela revient au politique. Donc, on met entre parenthèses le politique, c'est pour amener des solutions scientifiques et techniques qui sont dévolus à cette transition. Malheureusement, nous avons vu qu'ils ont cherché plutôt à légitimer leur posture, à se faire accepter par une frange du M5, parce que la classe politique, elle déjà, elle s'est discréditée depuis l'amont. Et maintenant, la configuration du M5 RFP, elle a été désarticulée par le comportement naturellement de certains membres du M5 RFP et du comportement du CNSP. Donc aujourd'hui, il s'agit stratégiquement pour les militaires d'asseoir leur emprise sur le CNT en faisant quoi ? En fait, trouvant une clé de répartition qui va représenter toute tendance qui est susceptible d'apporter une certaine contradiction. Parce que réellement, même dans les gouvernements ou dans les assemblées générales issues de processus électoral normaux, en fait, le président, il cherche une majorité confortable pour faire passer les lois qu'il veut faire passer. Donc, c'est tout à fait loisible pour le CNSP aujourd'hui d'avoir des choix qui répondent effectivement à une configuration qui leur permette d'avoir une certaine mainmise sur le Conseil national de transition pour qu'il n'y ait pas d'opposition fondamentale au niveau des lois qu'ils seraient tentés de faire passer aujourd'hui. Donc, en réalité, le CNT, comme madame l'a dit, c'est une bonne chose parce que ça répond quand même à l'attente d'un protocole, parce qu'on rentre dans une logique protocolaire qu'il faut respecter à travers la charte et tous les instruments que nous avons mis en place pour avoir un peu de stabilité par rapport à la communauté internationale. Oui, cette équation, elle est résolue. Mais ce qu'il faut retenir, grosso modo, c'est que cette transition aujourd'hui a joué la sécurité du CNSP plutôt que de la sécurité du peuple malien.
D'accord. Boubacar Bokoum parle de manque de compétences au sein du CNT et une recherche de majorité compétente.
Je ne parle pas de manque de compétences. Hein. Non.
D'accord.
Il y a des compétences à l'intérieur, mais le timing et tout ce qui est demandé en 18 mois, en quelques mois, on ne peut pas faire ce travail. Ce travail doit être un travail prêt et apporté au niveau de CNT pour validation. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, s'il faut faire 18 mois de transition, en 18 mois, c'est impossible. Quels que soient les techniciens qu'on apporte au niveau du CNT, avec toutes les contradictions internes, on ne peut pas faire sortir quelque chose de potable. Je veux juste dire que c'est des techniciens chevronnés, des constitutionnalistes, des gens en dehors du CNT qui font le travail technique scientifique qui est remis au CNP, au CNT pour validation. Donc on ne peut pas demander au CNT, quel que soit ce qu'ils ont mis ensemble, même si c'est des experts, une fois qu'ils arrivent au niveau de l'hémicycle, ce travail techniquement n'est pas faisable par une telle équipe. C'est ce que je voudrais dire.
D'accord. Quelle est l'analyse de l'association Ankomali sur la composition du CNT?
Ok, merci Monsieur Meiga. Et l'analyse de l'association Ankomali sur la composition du CNT n'est autre que la chose a trop duré. Et nous avions juste 18 mois, 18 petits mois pour pouvoir gérer beaucoup de choses.
Il reste 16 mois. C'est 16 mois déjà, on a déjà perdu.
On a déjà consommé 2 à 2,5. Donc maintenant, il va nous rester à peu près 14 mois à faire. 14 mois à faire. Donc dans les 14 mois, là, il faut qu'on parte vite et puis qu'on mette quelque chose en place. Donc moi, pour moi, notre analyse est que le CNT, les membres du CNT, les 121 personnes, il y a des cadres excellents, il y a des cadres très bons, il y a des cadres bons, moins bons, et des gens médiocres qui ne méritent même pas de rentrer dans ce CNT. Bon, nous nous fions à qui? Nous nous fions aux meilleurs qui sont dedans, les excellents. Pas des gens qui sont là pour être des simples figurants comme les assemblées passées.
Quand vous parlez des excellents, vous vous référez aux anciens ministres et des anciens députés?
Non, pas les anciens ministres. Si je parle d'excellents, je parle de Amaïfoune, quelqu'un comme Amaïfoune Touré, quelqu'un comme le magistrat Nana Kassé. Donc, et puis des jeunes aussi dynamiques comme Nuhun Sarr et puis les Aboubakar Sédik Fomba. C'est ce que nous, on les a dit. Les Aboubakar Sédik Fomba, les Nuhun Sarr, ils ont trop parlé. Maintenant, on va les voir à l'œuvre. Ce qu'ils ont dit, et on va les voir à l'acte. Donc maintenant, c'est quelques cadres qui sont au sein du CNT et je crois qu'avec eux, nous allons pouvoir avoir quelque chose de positif. Et ce que nous avons vu aussi, le CNT, ce n'est pas la personne de Diaw qui est à la tête. Diaw n'est qu'un singleton. Donc maintenant, Diaw ne peut pas imposer quelque chose à ses membres du CNT en matière de loi, d'autres choses. Donc les meilleurs qui sont là, dont je viens de citer quelques-uns, je sais qu'ils vont s'opposer à ça. Et nous attendons d'eux quelque chose de bien, de potable aussi. Donc ceux qui n'en valent même pas la peine, qui étaient dans les anciennes assemblées nationales et qui ne faisaient que lever les mains et puis les pieds, il y en a beaucoup. Et on se pose même la question de savoir comment ils sont rentrés dans ce CNT. Ils n'ont pas été choisis par leur parti politique. Ils n'ont pas été choisis peut-être par les militaires. Bon, le flou dont madame parle, donc il y a beaucoup de flou. Et puis, c'est un truc dilatoire dont nous, on ne sait même pas dans quoi nous sommes.
Où se trouve ce flou-là?
Bon, le flou-là se trouve dans le choix des membres du CNT.
Alors, est-ce que la présence des anciens ministres, des anciens députés au sein du CNT va contribuer ou va influencer les nouveaux entrants?
Bon, ça ne va pas influencer les nouveaux rentrants, parce que les nouveaux rentrants qui n'ont jamais servi, eux, ils le connaissent déjà, ils savent de quoi tout un chacun est capable. Donc, ils vont prendre toutes les précautions, les dispositions pour pouvoir se méfier de ces gens, parce qu'on va dire que nous avions demandé un changement de système. Donc maintenant, ce n'est pas ce vieux système qui va être encore ici pour essayer de s'imposer aux nouvelles personnes, aux nouvelles têtes qui sont dans le CNT.
Madame, vous parlez d'un flou. Est-ce qu'on peut dire que dans la désignation, le processus n'est pas fiable?
Bon, moi, en quelque sorte, hein, parce que moi, je connais les organisations, n'est-ce pas, qui ont accompagné le CNSP depuis le 18 août 2020. Le jour même où le président Ibrahim Boubacar Keïta a démissionné. Donc ces organisations sont là. Il y a les fêtières qui ont travaillé dans le collège de désignation des autorités de la transition. Ces organisations qui ont travaillé dans les concertations nationales, qui ont travaillé dans la validation de la feuille de route de la transition. Ces organisations qui ont accompagné, qui ont cru que vraiment... et le CNSP, n'est-ce pas, allait faire l'affaire des Maliens et que ça allait être une transition de justice. Une transition de justice, une transition de cohésion, de réconciliation. Parce que tant qu'on va continuer à travailler comme ça, ce n'est pas évident que cette réconciliation, n'est-ce pas, qu'on souhaite tant, n'est-ce pas, il sera. Donc on dit que c'est flou parce que ça dit de ceux-là qui n'étaient pas, n'est-ce pas, dans la course, dans l'accompagnement, n'est-ce pas, du processus, se retrouvent pendant que ceux-là qui ont mouillé le maillot sont exclus. Ça, on ne comprend pas.
Est-ce que la CAFO a désigné?
La CAFO a désigné, et moi j'ai trouvé la FENAFER là-bas, la Fédération nationale des femmes rurales, il y a la plateforme des femmes leaders du Mali, il y a l'Union des femmes leaders du Mali, il y a la Fédération des restauratrices du Mali. Ça dit, je connais beaucoup d'organisations, n'est-ce pas, qui ont eu à postuler. Et même le Conseil national...
Et ces organisations ne se retrouvent pas dans la CAFO?
Aucun membre. Donc. Non, bon, les unions des femmes leaders, là, parce qu'elles aussi, c'est des fêtières. Donc, c'est des fêtières. La CAFO, en son sein, a des associations et des ONG. Mais on peut partir, et des coopératives aussi, bien sûr, mais sans les GIE. Mais on peut partir en alliance avec toutes ces organisations. Le jour où on a marché, ce n'est pas que la CAFO, n'est-ce pas, qui a marché. La CAFO a marché avec plein d'autres organisations de la société civile féminine. Et nous avons donné des avis.
Donc, si je comprends bien, la CAFO n'a pas de représentante au sein du Conseil national.
Du tout. Et c'est ça qui a été désolant. Mais ce n'est pas nous-mêmes. Hein. Mais nous avons donné des représentants valables également sur le terrain. Il y avait Tombouctou qui était représenté. Il y avait Kaï qui était représenté. Il y avait la jeunesse CAFO qui était représentée aussi. Qu'on dise que vraiment, nous, on n'est rien. Mais quand même, l'organisation est un symbole. La CAFO est un symbole, la CAFO est une référence. La CAFO est la seule organisation qui est instituée et démembrée sur tout le terrain national, décentralisée sur tout le terrain, dans toutes les régions du Mali, dans tous les cercles du Mali, dans toutes les communes du Mali. Mais on n'est pas rien. La CAFO a fourni de la sueur. La CAFO a bâti du travail.
Boubacar Boukoum, est-ce que vous comprenez parmi
donc
les 30...
C'est cette liste, n'est-ce pas, qui est là. La CAFO ne se voit pas à travers cette liste. Mais ce n'est pas une raison, peut-être, pour ne pas accompagner. Parce que nous sommes des patriotes. On ne veut pas que cette transition la pêche.
Donc, mais vous allez accompagner?
Bien sûr. Moi, je l'ai dit à tout le monde. Dit, madame, est-ce que vous allez intenter vraiment des actions de pression? J'ai dit non. Non, nous sommes des grandes personnes. Nous sommes d'un certain âge. Nous devons respect et considération. Donc, par rapport à ces aspects, on a marché sous le soleil. On a fait des sittings. On a arrêté le ministre, on a fait tout. Nous sommes des cadres aussi rompus à la tâche.
Et ce n'est pas peine perdue?
C'est, je dirais, à ce niveau-là. On ne peut pas faire confiance à une organisation. La CAFO a travaillé, la CAFO est sur le même échiquier que le Conseil national de la jeunesse. Le président du Conseil national de la jeunesse est représenté dans le CNP. Parce que la CAFO, et disons l'État malien, n'est-ce pas, a des partenaires stratégiques qui sont la CAFO, qui sont le Conseil national, et on a une convention avec l'État du Mali. Également, il y a le Conseil national de la société civile qui a une plateforme qui s'est imposée. Et c'est le Conseil national de la société civile qui présente au président de la République en fin d'année les vœux. Donc on peut les considérer parce qu'il y a également des organisations d'utilité publique.
D'accord.
Parce que l'utilité publique, il faut avoir ce papier-là. Mais tu peux avoir un aura par rapport à la représentation, n'est-ce pas, de tes membres qui peut faire en sorte que l'État travaille avec toi. Mmh. Et ça, c'est le Conseil national est dans ce cadre. Mais je ne peux pas comprendre que rien de ces organisations ne fuse dedans. Donc c'est ce qu'on n'a pas compris.
Boubacar Boukoum, 37 femmes siègent au sein du Conseil national de transition. Et aucune,
c'est pas 37, c'est 30 femmes.
Aucune représentante de la CAFO. Est-ce que vous comprenez qu'une telle organisation ne soit pas représentée?
Non, je le comprends aisément bien. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est-à-dire aujourd'hui, nous n'avons aucune vision stratégique définie par le CNSP par rapport à la gouvernance. C'est ça toute la problématique. Quand ils sont arrivés, on n'a pas su où ils veulent amener le Mali. Et de façon claire, il fallait camper le décor et nous dire qu'est-ce qu'ils veulent faire du Mali. On n'en sait absolument rien. Donc, c'est vrai, tout le monde veut que la transition réussisse.
Mais faudrait-il que les dirigeants de la transition même le veuillent ? Toute la problématique est là. Donc, la clé de répartition, comme je disais tantôt, moi, je ne suis pas trop choqué par les clivages, les clés. Ça ne m'intéresse pas beaucoup. Parce que ça, c'est de l'équilibrisme. Nous, ça ne nous intéresse pas en tant qu'analyste.
Est-ce qu'il y a-t-il eu des manipulations
mais bien entendu,
dans le choix de cette équipe ?
Oui, vous savez, c'est ce que je vous ai dit à l'entame de mes propos. J'ai dit que même un gouvernement, ou du moins une assemblée nationale, élue sur le principe démocratique, il y a des manipulations à la base pour avoir une majorité à l'hémicycle. Parce que c'est essentiel pour la gouvernance. C'est un levier important pour ceux qui veulent gouverner. Ça, c'est sur le plan politique. Alors, vous amenez une transition qui n'est pas politique. Et vous leur demandez de nommer, parce que c'est là l'acceptation. On a vu que c'est des nominations, on n'a pas demandé d'aller à un vote. On n'a pas dit de faire une désignation élective. Il s'agit de faire un choix dans une panoplie de personnes désignées.
Vous parlez d'élection, est-ce que l'élection du président de la transition est crédible ?
Mais est-ce qu'il y a eu élection pour un président de la transition ? Je n'en ai pas connaissance. Moi, je n'ai pas été consulté. Donc, je n'ai pas voté pour le président de la transition. Encore moins que je n'ai pas voté pour ceux du CNT. Donc, ça veut dire quoi ? Qu'on est dans un mécanisme particulier. Donc, moi, ce n'est pas le mode d'élection ou comment ils sont arrivés là. Ce n'est pas ce qui m'inquiète. Ce n'est pas les hommes. Mais comme il l'a dit tantôt, c'est un problème de système. Un système de bonne gouvernance. Aujourd'hui, quelle est la visibilité par rapport au système qu'ils veulent amener ? Si on dit aujourd'hui que voilà le système que le CNT va animer, oui, on aurait une lisibilité, une compréhension de la mission qui leur est assignée. Mais aujourd'hui, quand on dit un contrôle du gouvernement, ils vont contrôler quel gouvernement ? Sur quelles règles ? On n'est pas dans des règles démocratiques. On n'est pas face à une déclaration de politique générale articulée et structurée, répondant réellement à la demande du citoyen. On est dans un cas exceptionnel qui, le programme de gouvernance, est défini par ceux qui ont les rênes de pouvoir. C'est pourquoi il est important que ceux qui ont les rênes de pouvoir nous disent, pour qu'ils aient une adhésion, pour qu'ils aient un accompagnement adéquat, il faut qu'ils nous disent dans quelle direction ils sont en train de partir. C'est pourquoi j'ai dit tantôt qu'il ne faut pas qu'ils commettent l'erreur de s'installer dans la gouvernance. Parce que le rôle de la transition, moi je ne suis pas inquiet par rapport au timing, parce que je me dis qu'une transition de telle nature, 6 mois suffisent largement pour faire la transition. Ils se donnent trop de tâches qui n'est pas la leur.
D'accord.
J'en finis tout de suite, hein, rapidement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous prenez le cas de Kidal, mais personne n'en parle. Comment vous pouvez comprendre que Kidal est gouverné d'une façon un peu extraordinaire et que personne n'en parle ? L'accord issu du processus d'Alger n'est pas au goût du jour. On dit juste qu'on va l'appliquer dans leur déclaration préliminaire. Mais dans quel contexte ? Qu'est-ce qui se passe ? Donc, en réalité, la transition est chargée de construire le nouvel État, les architectures institutionnelles qu'il faut, le modèle de gouvernance qu'il faut, les principes de la bonne gouvernance. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de répondre à l'article 39, il ne s'agit pas de chercher de l'argent parce qu'ils ne l'auront pas. Aucun pays du monde aujourd'hui ne serait prêt à accompagner le Mali financièrement tant qu'on est dans cette structuration. Ce n'est pas possible. D'accord. Donc, sur les ressources, les mobilisations internes des ressources, il faut trouver des mécanismes qui nous permettent aujourd'hui de mobiliser les ressources intérieures et mettre au goût du jour une économie réelle. Et c'est ce qui va permettre effectivement, de façon endogène, de trouver la synergie nécessaire pour relancer le développement économique, social et culturel de notre pays. D'accord. Mais dans cette condition, on ne sait pas où on va. C'est ça la difficulté.
On ne sait pas où on va. Mohamed, est-ce que vous avez été surpris de voir un militaire à la tête du Conseil national de transition ?
Bon, pas du tout. Pas du tout, parce que c'était quelque chose de déjà préparé. Et puis, ce n'était même pas prédit, on dit, c'était déjà préparé. Et tout un, chacun savait déjà que Diaw allait venir à la tête de ce CNT. Donc maintenant, les 30 ou bien les 20, c'est 30 ou bien 22 qu'ils se sont donnés là. Donc parmi les 22 qu'ils se sont les 22
postes,
ils se sont donné ça. C'est une auto-attribution, je crois.
Wow.
Donc ils se sont donné 22 postes et parmi ces 22 là, ils n'ont pas du tout été tous des militaires. Il y a des civils parmi eux. Et puis si on essaie de voir dans la charte ce qu'ils disent, ils disent que ce quota est aux forces de défense et de sécurité. Les civils qui sont dedans, ils ne sont pas des forces de défense et de sécurité. Donc ça veut dire qu'eux-mêmes, ils ont violé leur propre charte en fonction du quota qu'ils les ont donné. Bien vrai que vous pouvez dire que ce quota a été donné au CNSP qu'au forces de l'ordre et de sécurité. Donc, en un mot, ce truc-là, je dis, donc,
Dans son discours, le nouveau président du CNT a affirmé qu'il a été choisi parmi tant d'autres, alors qu'il était le seul candidat en lice. Qu'est-ce que cela explique pour vous?
Bon, vous savez ce que ça explique pour moi? C'est toujours une fuite à l'avant de ceux qui étaient présents dans la salle. Les 121 personnes, il n'y a qu'un seul qui se présente et les autres structures. Symboliquement, il devrait y avoir une seule personne qui dit que moi, je vais me présenter, bien vrai qu'il sait qu'il va être battu.
Donc c'est un coup préparé?
Bon, c'est un coup qui était déjà là, préparé. Si tu dis préparé, là, toi, tu as même arrangé la chose. C'est un coup, c'était quelque chose qui était déjà là. C'est pourquoi peut-être qu'ils ont écarté la CAFO. Si la CAFO était venue, il y a une dame qui allait se présenter pour être la présidente du CNT. Donc d'autres organisations aussi qui avaient été mises de côté. Peut-être qu'il y aura des gens qui étaient contre le fait que les militaires viennent à la tête de ce CNT. Donc au lieu qu'eux ne fassent ça, donc pour qu'il n'y ait pas d'opposition, ils ont fait leur choix. Même ceux qui disent qu'eux n'ont pas déposé de dossier ou être appelés, là. De toutes les façons, on nous dit que des dossiers n'ont pas été déposés, mais ils ne nous ont jamais dit qu'ils ne les avaient pas appelés au préalable pour leur dire « on vous choisit, on vous met sur les listes ». C'est ce côté aussi manque.
D'accord.
Donc il y a un autre flou qui est là.
Le vice-président qui pilote la nomination des membres de l'organe est censé contrôler leurs actions. Est-ce normal?
Bon, c'est pas du tout normal, à mon avis, parce qu'on dit qu'il est chargé de la défense et de la sécurité. S'il se met dans la salle encore là, peut-être que même Bangdang n'est plus président de la transition.
Madame Dembélé, Boubacar Bokoum parlait tout de suite d'ambition réelle. Quelles sont, selon vous, les ambitions réelles de cette équipe de la transition?
Bon, nous, on est déroutés parce que quand l'agent est venu, hein, nous, vraiment, on les a applaudis. On les a applaudis, on les a accompagnés parce que tout le monde voulait rompre avec l'ancien système. Parce que la trajectoire sur laquelle le Mali est en train de partir, ça pourrait aller droit dans le mur. Je ne le souhaite pas, n'est-ce pas, pour nous les Maliens. Mais il faut que l'on voit notre façon de faire.
Donc le Mali a raté sa révolution?
Bon, en tout cas, cette révolution, parce que c'est pas parce que, comme il a dit Ahmed Founé, il a dit aussi Maître Mokhtar, qui est de l'AMDH, on connaît tout le monde, hein. Il y a des valeurs dedans. Mais on ne peut pas miser sur une minorité forte et une majorité faible. Alors que, vraiment, le Mali traverse une phase critique de son histoire. Aujourd'hui, nous, on a peur. Je viens de participer à un processus où, vraiment, on a amené les victimes du terrain. Je ne sais pas si vous avez vu les audiences publiques. On a passé toute la journée à pleurer dans la salle. Donc ça veut dire déjà qu'il y a problème. Il y a vraiment de véritables problèmes. Et moi, ce que moi je souhaite, même si le poste de vice-président est anticonstitutionnel, mais on peut le concéder à cause vraiment de cette période transitoire, cette période d'exception. On peut le concéder pourvu que vraiment on travaille d'arrache-pied sur ces questions de sécurité. Les populations souffrent sur le terrain. Et moi, je pense que je ne voyais pas quand même le fait qu'on a concédé beaucoup de choses qui ne sont pas orthodoxes. Aujourd'hui, il faut que l'équipe se ressaisisse et puis essaie de faire en sorte qu'on puisse partir sur de bonnes bases. Sinon, on va aliser notre pays.
D'accord. Il faut que l'équipe se ressaisisse. Est-ce que vous trouvez que les dirigeants de la transition sont devenus des politiciens?
Oui, bien entendu, ils sont devenus des politiciens. C'est pourquoi, quand madame parle tout de suite, en fait, la posture de Assimi est une obstruction à l'exercice du pouvoir par le président, le chef de l'État, pardon. En réalité, c'est ça la difficulté. Mais maintenant, quand ils ont essayé de recadrer en parlant du contenu de la défense, nous, en son temps, on avait dit que ce n'était même pas la peine d'avoir cette pléthore de ministres, 25 ministres pour une transition, nous trouvons que c'est énorme. Il fallait juste avoir trois ministres d'État, un ministre d'État chargé de la défense, dont effectivement Assimi aurait pu jouer le rôle, parce qu'on aurait pu coupler le ministère des Affaires étrangères à celui de la Défense, qui est purement stratégique, qui aurait pu être confié à Assimi. Ensuite, tu as un ministre d'État chargé de l'économie. Aujourd'hui, nous avons des problèmes énormes simplement parce que nous n'avons que des financiers. Tout ce que le Mali traverse comme difficulté aujourd'hui, c'est le FMI et la Banque mondiale à travers plutôt des arrangements financiers que des arrangements réellement économiques. Et le troisième pied, c'est la défense civile. Madame parlait tout de suite de victimes. Il faut rendre justice. Et cette justice, elle va être assainie. Donc, de ce point de vue, si tu as ces trois pieds, le reste, ce n'est qu'un problème d'articulation et de leadership dans la façon dont on distribue les tâches et on les contrôle. Donc, au sommet, vous avez juste un Premier ministre qui est capable d'aller à cette coordination. Donc, on n'avait pas besoin de toute cette pléthore. Donc, aujourd'hui, on s'installe dans la gouvernance. Quand on crée des ministères dans lesquels, tous les jours, vous voyez des gens qui défilent, qui veulent juste avoir des postes, qui veulent juste avoir des opportunités d'affaires, mais je dis, mais est-ce qu'on a compris le problème? Le problème du Mali est tellement crucial aujourd'hui qu'il faut comprendre que le problème que nous traversons au centre du Mali, qui est une crise économique mondiale transposée sur notre espace, mais qu'on est en train de nous faire croire que c'est une crise entre Dogon et Peul. La crise qui a été déclenchée au nord, quand on a tiré sur la sonnette d'alarme, on dit non, c'est l'état-machèque.
Mais est-ce que vous estimez que cette équipe de la transition peut gérer cette situation de la crise du centre et du nord?
Non, il ne s'agit pas de gérer. La transition n'a pas un rôle de gérer. Il s'agit d'apporter des amorces. C'est-à-dire, il faut d'abord comprendre. L'analyse consiste à juste dire, on a compris
est-ce
le problème.
Est-ce qu'on regarde ce qui se passe, ces amorces-là, cette équipe peut,
non, je ne suis pas en train de voir, comme ils ont 18 mois, je ne comprends même pas l'architecture. Hein. Je vous assure que je n'ai rien compris dans l'architecture qu'on est en train de construire aujourd'hui. Nous, on parle d'une nouvelle architecture institutionnelle. Là où moi, j'attends le CNT, naturellement, comme il l'a dit, il y a quelques têtes dedans, mais madame a signalé tout de suite qu'ils sont infimes à l'intérieur, donc il ne peut pas infléchir le changement de l'intérieur. C'est très compliqué. Donc, ces genres de valeurs sont là juste pour valider, effectivement, le modèle qui a été mis en place. C'est ça, la triste réalité. Donc, en termes de capacité réelle, ils ne peuvent pas tirer la machine. C'est pourquoi, d'ailleurs, Diao est le président. Sinon, autrement, s'il y avait des hommes forts à l'intérieur, qui avaient une certaine aura à l'intérieur, qui avaient la possibilité de faire voter au moins 100 personnes, c'est sûr que ce n'est pas M. Diao qui allait être le président du CNTS. Donc, ça veut dire que déjà, de l'intérieur, c'est noyauté, c'est déjà pipé en amont. Si M. Diao est le président du CNT, ça veut dire que les lois aussi vont être pipées de la même manière.
Sur ce point, nous allons écouter le M5-RFP qui a déjà mis en cause le décret de nomination. Nous allons écouter Abdelkader Maïga du M5-RFP sur la mise en place du CNT.
Le M5-RFP a fait une déclaration, un communiqué le 4 décembre pour dire exactement que le M5 n'est pas du tout intéressé par le CNT dans les conditions actuelles et ne prendra pas part au Conseil national de transition. En plus, le M5-RFP a décrié le caractère illégal et toute la cacophonie autour de la désignation des membres du Conseil national de transition. Les décrets, non seulement dans la forme n'est pas bon, dans le fond également, c'est encore pire. Donc, pour toutes ces raisons, nous avons dit clairement que nous rappelons qu'on n'a pas déposé de liste et que personne ne doit répondre là-bas au nom du M5-RFP parce que nous allons nier catégoriquement que les gens qui vont se faire désigner ne seront pas au nom du M5-RFP.
Pourtant, le M5-RFP avait demandé la présidence du CNT et un quart de ses membres.
Oui, c'est la condition sine qua non qu'on avait posée. Soit on l'a ou on ne l'a pas. Si on ne l'a pas, donc on n'est pas dedans. C'est pourquoi on réaffirme cette position.
En quoi la forme et le fond de degré sont une violation pour vous?
Non, mais vous avez vu quand même, il y a plus de deux documents. Il y a au moins deux documents qui circulent par rapport au décret de désignation de ses membres. Il y a un document qui a été vu sur le RTM. On n'a pas vu le contenu, on ne sait pas qui a signé, comment ça a été signé et puis dans quel cadre c'est adopté. On a vu un document dans l'Essor, on a vu également un document sur les réseaux sociaux, il n'y a que des listes, des décrets qui n'ont pas d'entête comme d'habitude au Mali, des décrets qui ne sont pas signés. Et en plus de cela, ce qui est encore pire, c'est vraiment les décrets ne respectent pas la charte, ils ne respectent pas la constitution. Ça, c'est encore plus grave que la forme même légale du décret. On ne peut pas dire dans la charte nominativement voilà les personnes, voilà les organisations du moins qui doivent siéger au Conseil national de transition et aujourd'hui faire sortir une liste sans faire référence à ces organisations. Par exemple, le M5, on avait attribué 8 places au M5. Maintenant que le M5 n'est pas partant, est-ce que les 8 places-là ont été attribuées à une autre organisation? Cela devrait ressortir clairement sur la liste du décret. Mettre le nom des personnes la structure et mettre le nom de la personne. Là, tout le monde saura les différentes organisations qui sont là ont eu quel nombre de représentants. Mais tout ça n'a pas été fait. Donc, c'est en violation de même la charte.
Et ça veut dire que le M5-RFP va attaquer le décret de nomination devant les juridictions compétentes.
Ça, c'est notre choix. On a décidé, c'est même dans le communiqué, on se réserve le droit d'attaquer le décret. Mais cela va dépendre de l'évolution de la situation quand on saura que ça a été bien signé ou voilà, on peut situer les responsabilités. C'est en ce moment que on pourra attaquer. Mais pour le moment, on souhaite vraiment attaquer le décret.
Illégal et toute la cacophonie autour de la désignation des membres selon le mot de Abdelkader Maïga, est-ce que la CAFO trouve que le décret a un caractère illégal?
Bon, moi, je n'ai pas vu de signature. À vrai dire, le décret qui est sur les réseaux sociaux n'est pas signé. Moi, je ne sais pas si les autres ont appréhendé comme moi, mais je n'ai pas vu de signature. Le signataire, c'est qui?
Hier, il y avait un décret qui circule sur les réseaux sociaux où on voit la signature du président de la transition.
Maintenant, sinon avant le jour et après le jour, ce n'était pas signé encore. Bon, comme on dit que le président, il était en congé, donc peut-être il est venu pour signer, mais pas avant, on ne devrait pas publier avant l'arrivée du président, n'est-ce pas, qu'il signe en bonne et due forme, n'est-ce pas, ce décret, parce que il faut qu'on comprenne que...
Donc vous trouvez aussi que le décret ne respecte pas la Constitution ni même la Charte?
Bon, le décret là, il est attribué 4 postes par exemple aux femmes. Il est attribué moi je ne sais pas et sur quelle base, n'est-ce pas, la clé de répartition elle a été faite.
Mais on dit que chaque composante doit apporter des femmes également.
Oui, mais est-ce que c'est ça? Mais on devrait montrer de façon claire, lisible et
des
technique.
Des 4, on est arrivé à une trentaine.
Une trentaine, elles viennent d'où? C'est ça le problème, quoi. C'est-à-dire on les connaît pas. On a des camarades dedans.
Néanmoins, c'est des femmes.
Oui, c'est des femmes. Mais c'est des femmes, mais il ne s'agit pas de prendre les femmes n'importe comment. N'importe comment, il y a des femmes qui sont sur le terrain, qui se sont engagées pour le Mali depuis des années. Pourquoi les autres sont à la maison couchés là-bas? Et nous, on sort du matin au soir.
D'accord.
Moi, je pense qu'il faut une certaine équité. Il faut une certaine équité. Il faut rendre à César ce qui l'appartient. Nous avons du mérite et ce mérite-là doit être reconnu.
Mohamed Mamata Touré, 8 places pour le M5, 3 places pour la CMA qui, elle aussi, annonce qu'elle ne participera pas au CNT avec la forme actuelle. Quel impact cela pourra-t-il avoir sur la transition?
Bon, moi, je pense que ça ne pourra avoir aucun impact. La CIMA est habituée à son petit jeu et ça va continuer comme ça. Ils vont revenir après. Mais en ce qui concerne les 8 du M5-RFP, là, donc le M5 a toujours fait la politique de la chaise vide, comme les partis qui sont dedans l'ont toujours fait au sein de l'Assemblée et un peu partout, même dans les réunions. Donc maintenant, le problème dans lequel on se trouve aujourd'hui, si vous voyez que les militaires ont pris le pays en otage, sinon le pouvoir en otage, c'est dû à la défection du M5-RFP. Parce qu'au sein du M5-RFP, nous avons vu qu'il y a des responsables, des cadres du M5-RFP qui vont en cachette de jour comme de nuit aller voir ces jeunes militaires-là. Comment on peut faire confiance à des gens qui sont dans un gros mouvement aussi fort et puissant comme le M5-RFP et qui partent en rang dispersé, tout un chacun va pour pouvoir profiter d'une situation. Donc c'est ça la faiblesse du M5-RFP. Nous dire que chaque
Donc
fois...
Donc ils auraient dû accepter ces 8 postes?
Bon, qu'ils auraient dû... Si vous voyez qu'ils n'ont eu que 8 postes là, c'est parce que c'est ce qu'eux, ils ont cherché. S'ils étaient restés soudés ensemble et que personne ne parte voir les militaires à côté, ils allaient avoir même 30, sinon même plus. Bon, vous voyez, le M5, le grand problème, c'est quoi? Depuis le début du mouvement où ils disaient qu'il faut qu'IBK parte, nous, on avait dit tout ce que vous avez demandé, tout est correct, à part un seul point, le départ de IBK. Faisons beaucoup attention que IBK soit renversé, que IBK prend son avion, il fuit, ou bien que IBK démissionne de lui-même. Il faut faire attention qui va venir après. Si ça sera des militaires qui vont venir et que ces militaires soient des militaires criminels qui seront là, ils vont vous égorger tous. Ceux qui pourront fuir vont fuir, ceux qui vont être en prison le seront. Ils disent qu'il faut qu'ils partent seulement. Donc les militaires, ils ont pris IBK seulement. Ils sont venus au boulevard seulement, donc ils ont mis le président de la transition en place seulement, le vice-président seulement, le premier ministre seulement, et le CNT seulement. Et nous allons continuer dans le seulement. Là. Donc, embête-toi qu'on entend.
D'accord. Le M5-RFP prévoit d'attaquer les degrés de nomination devant les juridictions compétentes. Est-ce que ces degrés sont attaquables devant les juridictions au regard de ce que le président de la transition avait dit, qu'il se maintient à l'esprit des degrés?
Oui, mais tout est attaquable. Donc, les cas de figure, c'est le tribunal administratif. Ils ont le droit d'attaquer une décision. Maintenant, avoir raison ou ne pas avoir raison, c'est notre paire de manches. Mais ce qui est important de comprendre dans le processus aujourd'hui, c'est que, comme l'a dit M. Touré, le M5-RFP n'a pas péché que par sa dispersion. C'est par rapport à son manque de vision. Parce que vous ne pouvez pas demander aux gens d'être unis. À l'époque, je me rappelle quand Ibrahim Boubacar Keïta avait demandé le sursaut national, que tout le monde soit autour de lui, la question que je me suis dit, c'est autour de quoi? Est-ce qu'on est unis derrière toi en tant qu'individu? Ou bien tu as une vision qui te propose aux Maliens? Le M5-RFP a été incapable de nous dire sur quoi on fédère. Alors, si effectivement, avant la chute d'Ibrahim Boubacar Keïta, si le M5-RFP avait pris le peuple malien en témoignage pour dire, voilà sur le plan économique ce que nous nous proposons après IBK, voilà sur le plan politique ce que nous proposons, voilà sur le plan sécuritaire ce que nous proposons et que le peuple le valide, le CNSP n'avait d'autre choix que de suivre. Donc, il n'y a pas de trahison en la matière. C'est le fait qu'en amont, il n'y avait pas une vision.
Nous allons aux pistes des solutions parce que nous n'avons pas assez de temps. D'accord. Le président du CNT s'est engagé à travailler dur pour réconcilier les Maliens et établir la sécurité. Est-ce possible pour vous?
Ce n'est pas le rôle du président du CNT d'apporter la stabilité, la paix et la sécurité au Mali. Non, ce n'est pas son rôle. C'est-à-dire c'est qu'on est en train de créer une très grande confusion dans cette histoire.
Alors, quels sont, selon vous, les dossiers brûlants auxquels le CNT doit faire face?
Non, je pense qu'il faut aller rapidement à la réforme constitutionnelle, la relecture de l'accord, la nouvelle architecture institutionnelle. Parce que pourquoi chaque fois je reviens sur l'architecture institutionnelle? Parce qu'aujourd'hui, vous avez la région de Kidal qui est gérée autrement. Est-ce que cette situation, elle est irréversible ou est-ce qu'il faut harmoniser les 25 autres régions sur ce modèle de gouvernance? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, si cela est, ça veut dire que nous rentrons en plein pied dans le fédéralisme. Et si nous rentrons dans le fédéralisme, ça veut dire que le mode d'élection à la base, régionale, communale, législative change de modèle. Le modèle d'élection du président change de cap. Alors, si cette architecture, elle n'est pas construite, on ne comprend même pas dans quelle direction on est en train de partir. En 18 mois, on nous dit que rapidement, c'est des élections. D'accord. Mais quel modèle d'élection?
Madame Oulematou, est-ce que le Conseil national répondra-t-il aux attentes des Maliens?
Le
Conseil national de transition.
Bon, on l'espère parce qu'il y a des experts là-dedans, effectivement. Et puis, il y a des camarades, certains de nos camarades aussi, n'est-ce pas, qui peuvent faire quelque chose. Mais comme vous le savez, en matière de groupe comme ça, on ne sait pas les tendances politiques. C'est-à-dire, en fait, c'est imprimé aujourd'hui d'une certaine de façon de faire, de velléité, n'est-ce pas, qui font en sorte que on ne peut pas dire que cela est possible, nonobstant le fait qu'il y ait vraiment des hommes pointus là-dedans. Donc, moi, je souhaite.
Malheureusement, nous n'avons pas
donc,
assez de temps.
Merci.
Ainsi prend fin ce grand dialogue dont le thème s'intitule « Le Conseil national de transition répondra-t-il aux attentes de Maliens ?» Nous étions avec Madame Dembélé Oulema Tousso, présidente de la coordination des associations et organisations féminines CAFO, Mohamed Mamata Touré, président de l'association Anko Mali, Aboubakar Boukoum, analyste politique, les ONG. Merci, madame. Et je suis à la Imirana Kilo à Maïga, à la coordination Mouhamadou Touré, à la régie vidéo Nouhoun Adjiré et au niveau du son Mamadi Keïta. À demain pour un autre débat.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dewani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halou Dmoni.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba.